Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 16h à Paris, 15h en temps universel, 17h à Jérusalem et 18h à Riyad. Le journal vous est présenté par Gilles Moreau. Bonjour Gilles.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Dans l'actualité, les suites de l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Au Proche-Orient, cette élection encourage le projet de l'extrême droite israélienne d'annexer la Cisjordanie occupée. Explication de Sami Boukhelifa dans un instant. La grande conférence climat a commencé ses travaux. Hôte de cette conférence, le président azerbaïdjanais défend le droit des pays à exploiter leurs ressources pétrolières et gazières, des ressources qu'il compare à un cadeau de Dieu. Le chef de l'église anglicane contraint de démissionner. Il était sous pression après les dernières révélations sur un scandale sexuel impliquant l'église d'Angleterre. En France, la suite du débat budgétaire, la partie recette, largement remaniée par les députés, devrait être rejetée en fin d'après-midi par la coalition gouvernementale. Réunis en sommet à Riyad, en Arabie Saoudite, les dirigeants des pays arabes et musulmans ont envoyé hier un message clair. Pas de paix au Moyen-Orient sans retrait israélien des territoires palestiniens occupés. Un ministre israélien d'extrême droite a réagi. 2025 sera, selon lui, l'année de la souveraineté israélienne en Judée et Samarie. C'est l'appellation biblique de ce territoire occupé illégalement depuis 1967. À Jérusalem, les explications de notre correspondant Sami Boukhelifa.
Bezalel Smotrich, colon israélien, suprémaciste juif, ministre des Finances de l'État hébreu. Il est aussi, de fait, le gouverneur de la Cisjordanie occupée, car il a réussi à obtenir du Premier ministre Benjamin Netanyahou la création d'un sous-ministère rattaché à la Défense pour la gestion des activités civiles en Cisjordanie. Son ambition, annexer ce territoire palestinien. Le moment est arrivé, dit-il. Le retour de l'administration Trump nous en offre l'opportunité, affirme celui qui se présente volontiers comme un fasciste. Pour lui, la création d'un État palestinien met en danger l'existence d'Israël. Et sa voix n'est pas minoritaire au sein du gouvernement israélien. Selon la radio publique israélienne, Benjamin Netanyahou et ses conseillers travaillent également sur la question sur fond de retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Car durant son premier mandat, le milliardaire républicain a piétiné le droit international pour faire plaisir aux Israéliens. Reconnaissance de Jérusalem, ville en partie annexée, comme la capitale de l'État hébreu. Reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan syrien occupé. Et l'administration Trump avait même déclaré que les colonies israéliennes en Palestine n'étaient pas illégales. Sami Boukhelifa, Jérusalem, RFI.
L'armée israélienne a par ailleurs annoncé l'ouverture d'un nouveau point de passage pour l'aide humanitaire dans la bande de Gaza, le point de passage de Kisoufim. Son ouverture intervient avant la date butoir fixée par les États-Unis pour qu'Israël permette l'augmentation de l'aide aux Palestiniens. La grande conférence climat a commencé ses travaux. Pays hôte de la COP29, l'Azerbaïdjan défend le droit des États à exploiter leurs ressources pétrolières et gazières. Son président Ilham Aliyev l'a dit ce matin à l'ouverture du sommet de Bakou, en assumant son expression « cadeau de Dieu » pour désigner les hydrocarbures qui ont fait la richesse de son pays. Direction maintenant l'Espagne, 2 semaines après les inondations catastrophiques dans la région de Valence. Les équipes de secours continuent de rechercher 32 personnes portées disparues. La tragédie occupe aussi le terrain politique, même si le gouvernement de Pedro Sanchez souhaite repousser à plus tard le débat sur les responsabilités dans cette catastrophe. Explication à Madrid de François Musso.
Priorité aux parents des victimes, à ceux qui recherche les gens disparus. Priorité aux aides logistiques, aux travaux de nettoyage des rues envahies par la boue et la ferraille de quelques 120 000 véhicules détruits par les inondations. Tel est le discours du chef du gouvernement Pedro Sanchez ces derniers jours, mais c'est un discours qui commence à prendre l'eau aussi. Tout d'abord parce que des milliers de gens affectés manifestent leur colère car ils se sentent seuls, désemparés lorsque les secours ne sont pas arrivés. D'autant que des activistes complotistes d'extrême droite attisent leur ressentiment avec de fausses informations. Ensuite parce que l'opposition de droite accuse le pouvoir en place de ne pas avoir pris plus tôt les rênes des secours et des aides. Enfin, parce que les médias ont, eux, entamé déjà le débat sur les responsabilités réciproques, en particulier celle du président régional libéral Carlos Mason qui, le 29 octobre, le jour fatidique, avait réagi très tardivement à une tragédie évidente. Un Carlos Mason qui a déjà annoncé un remaniement de son exécutif, une façon indirecte de reconnaître ses torts. François Musso, Madrid RFI.
Bilan très lourd en Chine où une voiture a foncé sur la foule. Ce bilan établi par la police a évolué pour atteindre maintenant 35 morts, 43 blessés. Les faits se sont produits conduit hier soir à Zhuhai, une localité du sud de la Chine. Le conducteur a foncé à l'intérieur d'une salle de sport en versant les gens qui s'entraînaient. Grièvement blessé, il n'est pour le moment pas en état d'expliquer les raisons de son geste. Le chef de l'église anglicane, Justin Welby, démissionne. Il était sous pression après les dernières révélations sur un scandale sexuel. De nombreuses agressions ont été commises par un avocat dans le cadre de ses activités avec l'église d'Angleterre entre les années 1970 et les années 2010. L'église d'Angleterre est accusée d'avoir camouflé ce scandale qui a fait plus de 130 victimes, essentiellement des garçons mineurs. En Nouvelle-Zélande, le Premier ministre Christopher Lawson a dû présenter des excuses au nom des gouvernements successifs. Il s'est adressé aux victimes de violences commises dans des foyers d'accueil et des hôpitaux psychiatriques. C'est la suite d'une enquête rendue publique l'été dernier. Elle dénonçait une catastrophe nationale inimaginable. Je cite Yelena Tomic.
Stérilisation à l'insu des victimes, punition par électrochoc, agression sexuelle contre des enfants, mères contraintes de faire adopter leurs enfants, la liste des tortures, violences sexuelles commises par des responsables ecclésiastiques et des négligences subies dans les orphelinats, des foyers d'accueil, des hôpitaux psychiatriques et d'autres institutions, entre 1950 et 2019 donne un aperçu du degré de souffrance enduré par les 200 000 victimes identifiées dans l'enquête royale. Christophe Lawson s'est profondément excusé auprès de tous les survivants qui avaient pourtant dénoncé ces abus, mais qui n'ont pas été écoutés ni crus. Le Premier ministre néo-zélandais a également exprimé ses regrets face au silence des fonctionnaires, bénévoles et soignants qui ont préféré fermer les yeux. L'enquête royale conduite pendant 6 ans a également permis de révéler le racisme envers le peuple maori, les survivants du peuple autochtone ayant subi des traitements plus dur que les autres victimes. Le Premier ministre a annoncé une journée nationale de commémoration qui aura désormais lieu chaque année le 12 novembre.
Yelena Tomic du service international de la rédaction. En Russie, la répression sévit contre toute forme d'opposition. La justice a ainsi condamné à 5 ans et demi de prison une pédiatre de Moscou. Elle avait été accusée par la mère d'un patient d'avoir critiqué l'assaut russe en Ukraine lors d'une consultation. On connaît maintenant la date des prochaines élections législatives en Allemagne. Ce sera le 23 février 2025. Ces élections ont été provoquées par l'éclatement de la coalition au pouvoir. Outre les sociaux-démocrates, cette coalition comprend les écologistes et les libéraux sous la direction d'Olaf Scholz. En France, le difficile parcours au Parlement du projet de budget 2025. Aujourd'hui, place au vote de la partie recette. Les députés sont appelés à voter une version très largement remaniée par rapport au projet initial du gouvernement. Elle pourrait être rejetée avant de poursuivre sa route au Sénat. La coalition gouvernementale devrait voter contre cette version avec, a priori, le concours du Rassemblement national. Un résultat de tennis au Masters disputé actuellement à Turin. Victoire de Daniil Medvedev qui était opposé à l'Australien Alex de Minaur. Le score 6-2, 6-4. Enfin, après l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, les dirigeants de nombreux pays se préparent à négocier, à s'adapter à son style si particulier. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol a choisi sa méthode, c'est le golf. Les explications sur place de notre correspondant Célio Fioretti.
Rien de tel qu'un bon swing pour discuter. C'est en tout cas ce qu'espère le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, qui depuis le 5 novembre dernier s'entraîne au golf. Donald Trump, grand amateur de ce sport, y joue régulièrement et a l'habitude de rencontrer ses interlocuteurs autour d'un putter. Il vantait même son talent au golf lors d'un débat télévisé avec son adversaire Joe Biden. Alors, les équipes du président sud-coréen lui ont recommandé de s'entraîner, citant l'exemple de Shinzo Abe, ancien premier ministre japonais, qui aurait lié une amitié sincère avec Trump lors d'une partie de golf. Après 8 ans sans pratique, le fer est peut-être un peu rouillé, mais Yoon Suk-yeol espère être à même d'attirer les bonnes faveurs de Donald Trump. Les deux hommes se sont appelés peu après l'annonce des résultats de l'élection et ont convenu d'une rencontre dès que possible. Lors de son précédent mandat, Trump avait joué un rôle important dans les discussions intercoréennes, un rôle qu'il souhaite reprendre. L'avenir des relations entre Séoul et Washington se joue peut-être sur le green. Célio Fioretti, Séoul, RFI.
Voilà, en Corée du Sud, donc, le président Yoon Suk-yeol, il a choisi le golf tout comme Donald Trump. Ainsi s'achève le journal pratiquement 16h10 ici à Paris. Bonne fin de journée sur RFI.